On est tellement heureux de vous accueillir ce matin, en ce dimanche vraiment particulier, ce dimanche de Pâques. Et aujourd'hui, non seulement on va célébrer ensemble que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, c'est le cœur de notre message, mais ce matin, c'est un matin aussi particulier parce que c'est pas simplement à travers mes paroles, à travers ce message bien imparfait où on va célébrer Jésus, mais on va célébrer également ce qu'il a fait dans la vie de 35 personnes ce matin qui vont passer par les eaux du baptême. Hey, ils sont juste ici. Est-ce qu'on peut faire du bruit plus que ça pour les encourager? Personnes ce matin qui vont déclarer dans les eaux du baptême. Le baptême est un symbole. C'est un symbole que la Bible nous a laissé pour symboliser notre foi en Jésus. Littéralement, ce que ça veut dire le baptême, c'est lorsque la personne entre dans les eaux du baptême, c'est un symbole, c'est une image qui nous dit que voici tout ce qui était avant. J'étais mort spirituellement avant et maintenant je suis revenu à la vie en Jésus. Et c'est ce que 35 personnes vont déclarer publiquement ce matin et on va célébrer avec eux. Et pour reprendre les paroles de Patrick Lagacé dans la presse plus de ce matin, il disait à la fin de son article que la résurrection n'est pas seulement dans la Bible. Et je veux dire que c'est vrai, Jésus est ressuscité, mais ce matin, c'est le témoignage de 35 personnes qui sont passées de la mort à la vie. On va célébrer ensemble. C'est vraiment, la Pâque est une fête vraiment particulière parce que plus de 2000 ans plus tard, encore aujourd'hui, au moment où on se rassemble, des millions de personnes dans le monde célèbrent la Pâque. Si vous regardez les nouvelles, vous allez voir que partout dans le monde, dans toutes sortes de traditions différentes, dans des langues différentes, on célèbre la résurrection de Jésus aujourd'hui partout dans le monde. Et c'est vraiment particulier même. Je lisais quelques articles ce week-end en lien avec le week-end de Pâques sur différents médias québécois. Et c'est vraiment fascinant pour plusieurs que même si certains ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu ou était le Messie, c'est particulier quand même que pour eux, juste les gens au Québec, de voir que 2000 ans plus tard, cet homme-là qui avait une poignée de personnes avec lui, une douzaine de disciples avec lui pendant seulement trois ans de ministère actif, ça veut dire juste 3 ans où Jésus prêchait, faisait des miracles et à partir de 12 personnes avec lui, 3 ans seulement de ministère, aucun moyen de communication comme nous on a aujourd'hui, aucun moyen de transport comme nous on a aujourd'hui pour répandre le message. Mais 2000 ans plus tard, le mouvement que Jésus a instauré est plus fort que jamais. Des millions de personnes, d'une poignée de personnes il y a 2000 ans, à des millions aujourd'hui et des centaines de millions depuis 2000 ans qui ont professé leur foi en Jésus. Et ce message-là est non seulement pas en train de s'essouffler, mais partout, le message de Jésus grandit dans le monde, non seulement ici au Québec, mais ailleurs également partout dans le monde. La Bible est encore aujourd'hui le livre le plus vendu à chaque année. Imaginez ça! Imaginez! Que Pâques est vraiment quelque chose de spécial. C'est un message que même les gens les plus athées ne peuvent pas dire que c'est n'importe quoi parce que depuis 2000 ans, ce message-là grandit. La Bible qui se vend encore aujourd'hui, notre calendrier littéralement est séparé par la vie de ce Jésus-là qui est venu sur terre. Littéralement, c'est le calendrier du monde est séparé en deux. Jésus n'a laissé personne indifférent et le mouvement qu'il a démarré est plus fort que jamais 2000 ans plus tard. Et ça, il n'y a aucune autre religion, il n'y a aucune autre personne dans l'histoire du monde qui peut dire avoir eu un impact tel que Jésus l'a eu. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire de la résurrection de Jésus qui est le cœur de son message. S'il n'y a pas de résurrection de Jésus, nous ne sommes pas ici. Aujourd'hui, la résurrection de Jésus qui est relatée dans plusieurs livres de la Bible et autour de la Bible, plusieurs historiens relatent qu'il y a eu la résurrection, elle est réelle. Et aujourd'hui, on va plonger à travers les lunettes d'un des hommes qui était avec Jésus. Cet homme-là s'appelle Pierre et Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans. Et on va regarder la résurrection de Jésus à travers ses lunettes à lui, sa perspective à lui. Parce que vous allez voir, par exemple, dans les 4 évangiles qui sont comme 4 journalistes qui vont regarder la vie de Jésus, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui vont relater ce qu'ils ont vu du ministère de Jésus. Mais Pierre n'a pas écrit un évangile, mais il a écrit des lettres plus tard où il va nous parler de la résurrection. Et ce Pierre-là n'a pas juste entendu parler de Jésus ou entendu parler de la résurrection, il était avec Jésus lorsque Jésus faisait son ministère. Et Pierre était un homme vraiment particulier parce que Pierre, c'était celui qui parlait beaucoup. Des fois, c'était bien, des fois, c'était moins bien. Maintenant, c'est à côté de quelqu'un qui fait ça aussi. Donne pas de coup de coude à personne ce matin. c'est quelqu'un qui disait tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je sais que personne, c'est le cas ici, mais il y en a, ça arrivait. Pierre, c'était son cas. Lui, il disait toujours tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Faut pas le dire. Pierre va le dire. C'est ce qui arrivait à Pierre. Pierre était prêt à tout pour Jésus. C'était le plus courageux quand que Jésus invitait à marcher sur l'eau. Tout le monde n'était pas sûr. Qui va sauter dans l'eau? C'est Pierre. Pierre, c'était le courageux de la gang. C'était lui qui était outgoing. C'est lui qui faisait ça. Mais Pierre était capable du meilleur comme du pire. Parce que Pierre, c'était peut-être celui qui était le plus courageux. C'était lui qui était prêt à tout faire pour Jésus. C'est aussi le gars qui a renié Jésus 3 fois. Lorsque Jésus s'en allait vers la croix et qu'on a arrêté, hey, « Toi, Pierre, tu étais avec ce Jésus-là, est-ce que tu voudrais que toi aussi tu te fasses arrêter? » Et Pierre va dire, « Non, je connais même pas ce gars-là, je sais même pas de qui vous parlez. » Alors ce Pierre qui était super prêt à n'importe quoi pour Jésus a aussi été capable du pire en reniant Jésus, pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. C'est celui qui faisait les erreurs les plus spectaculaires. Mais dans une lettre que Pierre a écrite plusieurs années après la résurrection, Pierre va nous donner une perspective pour nous aujourd'hui de ce que ça veut dire la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre n'était pas juste éloigné de ça. Pierre est au milieu de toute cette histoire-là. Et des années plus tard, Pierre écrit une lettre qu'on a encore aujourd'hui dans la Bible. Et il va nous donner cette perspective de la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous encore aujourd'hui? Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, voici ce que Pierre, qui a marché avec Jésus, qui a été témoin de tout ça, voici ce qu'il a dit de la résurrection. Loué soit Dieu, ce qu'on fait ce matin, on vient louer Dieu pour la résurrection. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son amour sans limite, il a eu compassion de nous et nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi? Pour nous donner une espérance vivante. Pierre est en train de dire, c'est l'amour sans limite de Dieu par lequel il nous a envoyé son Fils qui est mort sur la croix pour nous, mais qui est ressuscité. Pourquoi? Pas seulement pour que ce soit un bon souvenir, pour que ça demeure pour nous une espérance vivante. Et j'aimerais te suggérer que c'est vrai jusqu'en 2024, cette espérance-là. Le titre du message de ce matin, c'est « Dieu n'a pas dit son dernier mot ». Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ce matin, le message de la résurrection, c'est le message que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Face à la mort, face à l'ennemi, face au péché, face aux arrestations injustes de Jésus, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Mais il y en a ici ce matin, c'est une parole pour toi. Il y en a ici ce matin, peut-être qui était là pour la première fois, peut-être qui était là pour la 100e fois à l'Église. Mais j'aimerais dire une chose, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Il y en a ici, tu vas sortir avec cette parole sur ta vie ce matin. Que Dieu n'a pas dit son dernier mot, parce que le message de Pâques, le message de la résurrection de Jésus, ça a été la plus belle preuve et la plus belle démonstration que Dieu a toujours le dernier mot. Si tu connais quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot, dis-lui de ne jamais jouer à ça avec Dieu parce qu'il va toujours perdre. Dieu a toujours le dernier mot. Et si tu penses que tu as le dernier mot, pas avec Dieu, ça n'arrivera pas. Pendant 3 ans, Jésus a eu un ministère qu'on disait actif, où Jésus a prêché, Jésus a enseigné, Jésus se promenait de village en village, de ville en ville, pour prêcher le message de la grâce, le message de l'amour de Dieu. Et Jésus faisait des miracles, Jésus guérissait des gens. Et pendant ces 3 années-là, son influence a grandi. Ça, par dizaines et centaines de personnes commençaient à vouloir suivre ce Jésus-là, voulaient commencer à donner leur vie pour suivre Jésus. Et son influence grandissait partout où il allait. Son ministère avait un impact qui grandissait à vue d'œil. Il y a bientôt 2000 ans, dans cette semaine même de Pâques, alors que les leaders religieux de l'époque commençaient à être jaloux de l'influence que Jésus gagnait, alors que les leaders politiques commençaient à se sentir menacés par ce Jésus-là dont son message commençait à toucher une corde sensible dans le cœur du peuple, où les gens commençaient à le suivre, commençaient à croire qu'il était réellement le Fils de Dieu, alors que les leaders religieux, alors que les leaders même politiques de l'époque se sentaient de plus en plus menacés par ce Jésus-là, que le peuple commençait à le suivre. Dans cette semaine de Pâques, ils ont décidé d'en finir avec lui. Il y a bientôt 2000 ans, en disant, on va crucifier cet homme-là pour étouffer son ministère et pour étouffer son message. Ils ont tout fait, littéralement, pour faire disparaître Jésus. Ils l'ont injustement fait arrêter. J'ai pas le temps ce matin d'aller dans les détails de ça parce que je suis sur une horloge ce matin. Mais allez lire Matthieu chapitre 27 où les leaders religieux, tellement jaloux de l'influence de Jésus, vont décider de le faire arrêter et de l'amener jusqu'à cet homme qui s'appelle Ponce Pilate. Vous savez l'expression de « je m'en lave les mains ». Ça vient de cet homme-là, Ponce Pilate, alors que les leaders religieux disent « tu dois faire mourir cet homme-là ». Et Ponce Pilate va dire « est-ce que vous avez une raison de vouloir le faire mourir ?» Il dit « non ». Crucifie-le, crucifie-le, aucune raison. Et Ponce Pilate dit, j'ai aucune raison de le faire mourir. Mais il y avait une tradition à l'époque qui relâchait toujours un prisonnier dans la semaine de Pâques. Ils ont décidé de relâcher un autre prisonnier qui, lui, était coupable et de mettre Jésus à sa place. Alors, les leaders religieux finissent par avoir ce qu'ils voulaient, faire mourir Jésus-Christ. Et Ponce Pilate, c'est là qu'il va dire, « Faites ce que vous en voulez, moi, je m'en lave les mains. » Et Jésus, dans cette semaine-là, va être injustement arrêté, accusé, condamné à mort. Les leaders religieux ont ce qu'ils veulent. Ponce Pilate se lave les mains. Alors, ils vont insulter Jésus cette semaine-là, les moments avant sa crucifixion, les heures avant. Jésus a été insulté. Jésus a été torturé par les manières les plus dégueulasses que tu peux imaginer. C'était extrêmement barbare à l'époque. Jésus est injustement accusé, injustement fouetté, injustement torturé et jusqu'au bout, injustement crucifié. Et ces gens-là pensaient, les leaders religieux et politiques de l'époque, pensaient qu'en faisant ça, son message allait s'arrêter. Ils pensaient qu'à partir de maintenant, tous les disciples, les gens et les disciples, c'était littéralement des gens qui marchaient derrière lui, qui suivaient ses enseignements. Ils se disaient, ces gens-là vont juste arrêter. Le mouvement va juste s'éteindre avec tout ça. Alors que Ponce Pilate, l'establishment religieux de l'époque, pensait que c'était terminé. Il pensait se débarrasser de lui. En fait, tout ce qu'il faisait, ce n'était que pousser Jésus dans la raison ultime de pourquoi il était venu ici. Alors qu'eux pensent qu'ils sont en train de freiner le message, Dieu n'avait pas dit son dernier mot, parce que Dieu est en train d'accomplir la raison exacte pour laquelle il avait envoyé son fils. Et si tu doutes aujourd'hui, regardez ça, ce que Luc, le médecin, va écrire dans Actes chapitre 2. En parlant de Jésus, il va dire ceci. « Cet homme vous a été livré jusqu'à la croix, suivant le projet défini et la préscience de Dieu. » Ponce Pilate pensait que c'était lui qui crucifiait Jésus, mais non, c'était le projet de Dieu depuis vraiment longtemps, où Jésus allait venir payer pour tes fautes et mes fautes, tes péchés, mes péchés, sur la croix une fois pour toutes. C'était le projet de Dieu, c'était pas à cause de Ponce Pilate que Jésus est allé à la croix, c'était son amour pour toi qui l'a amené jusqu'à la croix. Quelqu'un devrait dire « Amen », c'est écrit dans mes notes ici. « Cet homme vous a été livré, suivant le projet défini et la préscience de Dieu. » Mais regardez ça, « Vous l'avez arrêté et vous l'avez fait mourir sur une croix. » Ça, c'est tout l'establishment religieux de l'époque. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Regarde le verset 24. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Quelqu'un devrait dire amen à ça ce matin. Oh, ça, c'est vraiment des beaux applaudissements de golf. Mais les applaudissements de Pâques, c'est que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Les leaders religieux pensaient l'avoir crucifié, que c'était terminé. Mais Dieu l'a libéré. Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité. Même dans toute leur méchanceté, toute leur injustice, ils n'ont jamais pu empêcher Dieu d'accomplir son plan. La croix et la résurrection démontrent qu'il n'y a rien ni personne qui peut avoir le dernier mot sur Dieu. C'est son plan à la fin de la journée qui va s'accomplir. La résurrection venait prouver que Jésus était réellement le Messie, qu'il était réellement le Fils de Dieu, qu'il était réellement le Sauveur qu'il se déclarait être. Le message de Pâques est très, très simple. C'est Jésus qui est venu vers moi alors que moi, je ne pensais même pas à lui et alors que son amour pour moi l'a poussé sur la croix à ma place. Ce Jésus-là qui est venu enseigner le message de la grâce et de l'amour, il l'a représenté parfaitement alors qu'il est allé à la croix pour moi. Pour toi. Et alors que les hommes pensaient le faire mourir, en fait, ils l'ont juste poussé dans sa destinée à ce que Jésus était venu pour faire ça. Il était venu pour mourir sur la croix pour toi et pour moi. Il nous a aimé le premier. Il a porté notre honte. Il a payé le prix de nos péchés alors que nous, jamais on n'aurait pu se rendre jusqu'à Dieu. C'est Jésus qui est venu vers nous, qui a pris notre place et qui l'a rendu possible que nous soyons justifiés devant Dieu et réconciliés avec lui. Et la résurrection de Jésus prouve qu'il est vivant et ça prouve qu'il m'offre cette nouvelle vie qu'il me promettait. Ça prouve dans toute la parole, il m'offre la réconciliation, la restauration possible, la page blanche qu'il peut m'offrir alors que moi je peux marquer toutes les erreurs, les fautes que j'ai pu faire, tous les péchés que j'ai pu commettre. La croix et la résurrection me donnent accès à une vie nouvelle, à une nouvelle vie. Ça serait un bon nom d'église ça d'ailleurs, une église nouvelle vie, ça pourrait être bon si quelqu'un pensait à ça. L'église nouvelle vie, c'est ce que Jésus m'offre, une page blanche, une deuxième chance. C'est ça la grâce de Dieu. Et tout ce message de la grâce, de l'amour, du pardon de Dieu, qu'à travers l'œuvre de Jésus, Dieu m'offre une nouvelle vie, une nouvelle chance, une nouvelle page. Pour Pierre, ce n'était pas juste un concept abstrait. Pour Pierre, ce n'était pas seulement des paroles en l'air. Pour Pierre, c'était son témoignage. Ce n'était pas juste de la bonne théologie. Ce n'était pas juste de la théorie. Pour Pierre, c'était l'histoire de sa vie. C'était son témoignage. Parce que s'il y avait une personne qui l'avait vraiment échappé, c'était Pierre. S'il y avait vraiment une personne qui a fait les erreurs, qui n'aurait pas été pardonnée avec Jésus, c'était Pierre. S'il y a une personne qui a manqué de fidélité à Jésus, c'était Pierre. S'il y a une personne qui ne méritait pas la deuxième chance, c'était Pierre. Celui qui avait péché le plus dans tous les disciples, de tout ce qu'on peut savoir, sauf celui qui l'a trahi, c'était Pierre. Pierre a échappé des balles comme aucun autre disciple l'avait échappé. Et malgré tous ses efforts, toutes ses meilleures intentions pour essayer d'être à la hauteur, Pierre n'a jamais réussi d'être parfaitement à la hauteur du message de Jésus. Et Pierre, pour lui, la grâce de Jésus, l'amour de Jésus, le pardon de Jésus, ce n'était pas juste un concept abstrait. Il l'a expérimenté pour sa vie parce que Pierre, même s'il essayait de toutes ses forces de se rendre digne d'être un disciple de Jésus, il n'a jamais réellement été capable. Regardez ça dans Matthieu chapitre 26, juste avant la croix. Et Jésus va dire, « Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Jésus leur a dit, « Je vais revenir à la vie puis je vais vous attendre en Galilée, une région qu'il connaissait très, très bien. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Garde en tête qu'il l'a renié trois fois après ça. « Ah, Seigneur, s'il y en a qui tombent, là, moi, je tomberai jamais. » Mais Jésus lui dit, « Je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, trois fois tu me renieras. » Il a regardé Pierre. Pierre répondit, « Non, Seigneur. » Déjà, quand tu commences à contredire Jésus, déjà là, tu devrais avoir un flag qui te dit, « C'est pas une bonne idée, là. Je viens de te le dire. Not a good idea. » Pierre lui répondit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et regardez Luc, une autre version de cette scène-là qui dit, « Le Seigneur lui dit Pierre dans Luc 22, « Je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. » Pierre est en train de dire, « Peut-être que d'autres vont te renier, peut-être que d'autres vont t'abandonner, peut-être que d'autres vont te laisser tomber, mais moi, jamais je ferai ça, Seigneur. Moi, je suis prêt à aller en prison pour toi, je suis prêt à mourir pour toi, Seigneur. Je vais faire ce qu'il faut, mais jamais je vais t'abandonner, Seigneur. » Et alors que Jésus s'en va vers la croix et qu'on approche de Pierre, « Hey, toi, est-ce que tu connais ça, ce Jésus-là? » Aucune idée de qui vous parlez. Qui? Jésus? Aucune idée. Jamais vu ce gars-là. Jamais entendu parler de ce gars-là. Alors que Jésus s'en va à la croix, trois fois, Pierre va renier. Il va même parler comme s'il ne l'avait jamais même connu. Trois fois. Et Pierre se retrouve à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il va se retrouver en train de renier Jésus, à parler comme s'il ne le connaît pas du tout. Il va traverser une ligne. Il venait juste de promettre à Jésus, je ne le ferai pas. Il traverse cette ligne de dire que je viens de renier Jésus trois fois. Je viens de parler aux gens qui étaient là comme si je ne l'avais jamais connu. Pierre se retrouve à commettre une erreur qu'il n'aurait même probablement jamais pensé être capable de faire. Il venait juste de promettre à Jésus lui-même qu'il n'allait pas le faire. Puis peut-être que comme Pierre, toi aussi tu t'es déjà dit ça. Parce que comme Pierre, parfois nous aussi, on va dire ça dans nos vies. « Ah, moi, je ne ferai jamais ça. Alors, Seigneur, Père, s'il y en a qui t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. » Puis des fois dans nos vies, ce qu'on va dire aussi, c'est « Ah, moi, là, jamais, quand je vais avoir des enfants, jamais je vais lever le ton contre eux. » Tous les parents disent « Ah! » Les gens qui disent ça, c'est les gens qui n'ont pas d'enfants. Vous avez déjà remarqué ça? Moi, jamais! Confession ce matin. Jamais je vais perdre patience au volant. Ça ne va jamais arriver. Faites attention, ceux qui me connaissent. Ça ne va pas arriver. Je le crois. Ah, jamais! Ça ne m'arrivera pas à moi. Ah, moi, là, je ne rentrerai pas dans une dépression. Moi, jamais! Ah, jamais! Les autres, peut-être. Comme Pierre. Peut-être que les autres, oui, feront ça. Pas moi, Seigneur! « Ah, je ne ferai jamais ça. Ah non, moi, je ne ferai jamais comme ça. Tromper mon conjoint, ma conjointe. Hey, jamais que je ferai ça. Il n'y a personne qui va se marier en se disant un jour, moi, je vais te tromper. » Personne ne dit ça. On est tous avec la pensée de « Non, jamais je vais faire ça. Jamais ça va m'arriver. Jamais je vais manquer d'intégrité comme ça. Jamais je vais parler de cette manière-là à quelqu'un. Jamais je vais faire ça. Jamais je vais faire ça à quelqu'un. » Et peut-être que si tu continues de marcher dans la vie, peut-être déjà certains ont un peu plus de millage. Il y a des choses que tu disais « Jamais je vais traverser ça. Jamais je vais faire ça. Ça, ça ne sera pas ma vie. Ça, c'est pas moi. » Et tu peux trouver comme Pierre, avoir traversé des lignes dans ta vie où tu t'es dit, j'avais dit que jamais j'allais faire ça. J'avais déjà dit jamais j'allais vivre ça. Je m'étais promis que jamais j'allais traverser ça. Je m'étais promis que jamais j'allais me divorcer. Je m'étais promis que jamais j'allais traverser ça. Et tu peux te retrouver quelques années plus tard, quelques temps plus tard, à traverser une ligne comme Pierre et te dire, je viens de faire exactement ce que j'avais dit que je n'allais pas faire. Les autres peut-être, mais pas moi. Et à ce moment-là, si tu fais pause sur la vie de Pierre, viens de renier Jésus trois fois, il vient de se mettre à dos complètement, tourner le dos complètement à Jésus. Si tu fais pause sur sa vie, comment tu qualifierais sa vie? Pour Pierre, c'était probablement sa vie aurait été caractérisée comme étant un gros échec. Ce gars-là qui avait un potentiel pour le royaume de Dieu, renie Jésus, c'est un échec. Il était infidèle à Jésus. C'est vrai qu'il était à ce moment-là. C'est un menteur, parce qu'alors qu'il dit aux gens, je ne le connais pas, c'était pas vrai, il le connaissait très bien. C'est un hypocrite. La Bible va même dire que Pierre a tellement honte de ce qu'il a fait, tellement brisé, que plusieurs théologiens vont prendre des textes qui sont dans l'Évangile de Jean pour dire que, alors que Pierre, Jésus est mort maintenant, Jésus est parti, Pierre a tellement honte. Plusieurs théologiens vont analyser le texte en disant que lorsque Pierre va dire qu'il retourne à la pêche, c'est littéralement comme s'il retourne à son ancienne vie. Parce que Pierre, c'est un pêcheur de formation, pêcher des poissons. Puis alors que Pierre est là, Jésus est parti, Pierre retourne pêcher des poissons. Tellement honte qu'il dit, moi, je m'en vais juste retourner à ce que je connais, je m'en vais juste retourner là-bas. Je vais retourner, toute l'appel qui pouvait être sur ma vie, je le rejette maintenant, ça n'a pas rapport. Tout ce que Jésus pouvait dire sur moi, je tourne le dos. Je retourne à mon ancienne vie, je retourne à ce que je connais. Et pendant que Pierre, manque pas ça ce matin, c'est le cœur du message. Pendant que Pierre croit que tout est fini, pendant que Pierre croit qu'il a tout brisé, pendant que Pierre pense qu'il ne pourra jamais se relever de ça, il vient de renier le Sauveur, il vient de renier le Messie, il vient de renier celui qui avait dit qu'il jamais allait le faire. Dieu va démontrer à Pierre que même ses pires erreurs, même ses pires péchés ne sont jamais finales avec Dieu. Il va lui démontrer que même les pires erreurs qu'il a faites ne seront jamais un point final sur sa vie. Parce que regardez ce qui arrive à la résurrection, ce qu'on célèbre ce matin. Alors que Jésus était crucifié, Pierre s'en va à son ancienne vie. Jésus revient à la vie et l'histoire va dire qu'il y a trois femmes qui s'en vont vers le tombeau de Jésus pour aller apporter des épices. C'est trois femmes qui sont là avec des épices pour prendre soin du corps de Jésus qui est mort dans le tombeau. Les trois femmes avec des épices, c'est les premières Spice Girls, si vous voulez voir, c'est dans la Bible. C'est vraiment là. Puis alors qu'ils s'en vont au tombeau, regardez la scène. Elles entrèrent dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite. La Bible va dire que c'est un ange, cet homme-là, c'est un ange qui est là, habillé d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Ouais, qu'est-ce qui arrive? L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Mais voici l'endroit où on l'avait déposé. Il était ici maintenant, il n'est plus ici. Mais allez dire à ses disciples, regardez ça ce qui m'a frappé, mais allez dire à ses disciples, et à Pierre, celui qui l'a renié trois fois, celui qui a tourné le dos, celui qui n'a pas été fidèle à sa parole, allez dire aux disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Et il y a toutes sortes de spéculations autour de pourquoi est-ce que l'ange va spécifier le nom de Pierre? Pourquoi est-ce que l'ange ne va pas juste dire aux disciples qu'il vous attend? Non, l'ange va dire, dites aux disciples, mais aussi à celui qui est le plus infidèle de la gang. Dites à celui qui a échappé la balle le plus. Dites à celui qui a commis la plus grosse erreur de l'avoir renié. Dites-lui, à lui aussi, que Jésus l'attend encore. Que Jésus n'a pas dit son dernier mot sur sa vie. Que ses erreurs ne sont pas finales. Quelqu'un devrait dire amen à ça. L'ange voulait que Pierre sache que Jésus n'avait pas lancé la serviette sur sa vie. L'ange voulait que Pierre sache que Jésus n'avait pas abandonné sur lui, qu'il n'avait pas changé d'idée. Ou voici ce que je t'appelais à faire, Pierre, mais à cause de tes erreurs maintenant, oublie ça. Non, l'ange voulait que Pierre sache qu'il était encore appelé, qu'il était encore celui que Jésus voulait utiliser. Dieu n'avait pas dit son dernier mot sur sa vie. L'ange voulait que Pierre sache que l'amour de Dieu est encore disponible malgré les erreurs. L'ange voulait que Pierre sache que la grâce de Dieu était encore disponible malgré ses pires erreurs. Et quelqu'un devrait dire amen parce que c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Comme si Dieu disait, j'ai vu, je connais tes erreurs, Pierre. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai entendu ce que tu as fait. J'ai vu comment tu me tournais le dos. Mais ma grâce est encore disponible. Alors Pierre, sors de ton bateau de pêcheur parce que je ne t'appelle pas à retourner à tes bateaux et pêcher des poissons. Je t'appelle à être un leader dans mon royaume. Alors prépare-toi, change-toi, va te prendre une douche parce que je ne t'appelle pas à pêcher des poissons. Je t'appelle à être un prédicateur. Et en passant, prépare tes notes parce que dans 50 jours, tu t'en vas prêcher la Pentecôte. Tu t'en vas prêcher le début de l'Église telle qu'on la connaît. Parce que dans Actes chapitre 2, alors que l'Église telle qu'on la connaît va démarrer, c'est qui va être de vous devant tout le monde pour prêcher ce message-là? C'est Pierre. Parce que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Alors Pierre, prépare tes notes parce que tu t'en vas prêcher. Et là, lorsqu'on lit la lettre de Pierre, celle qu'on a lue au début du message. 1 Pierre 1-3. On comprend que pour Pierre, ce qu'il écrit là, ce n'est pas juste de la bonne théologie, c'est son témoignage. Parce que Pierre va écrire cette lettre-là après l'avoir renié, après la croix, après la résurrection, plusieurs années après. Alors que Pierre sort Jésus maintenant, puis là, bâtit l'Église, il va servir comme un leader dans l'œuvre de Dieu depuis des années, puis il va écrire cette lettre. Puis on va la relire ensemble parce qu'on comprend que ce n'est pas juste théorique, la grâce de Dieu. Pour lui, c'était son histoire. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour sans limite, qu'il m'a aimé même si je l'ai renié, il a eu compassion de nous. Pierre, ce n'est pas juste la théorie, c'est sa vie. Il nous a fait renaître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Pour Pierre, ce n'est pas juste de la théorie. Pour Pierre, c'est sa vie. Pour Pierre, c'est son témoignage. Alors que moi, j'étais loin, alors que je l'ai renié, alors que j'ai échappé la balle, l'amour sans limite de Dieu est venu et m'a attrapé. Et alors que j'étais loin, il m'a donné encore une nouvelle chance. Il m'a fait naître de nouveau à cause de la résurrection de Jésus. Et cette espérance-là, ce n'est pas juste une espérance ancienne, c'est une espérance vivante pour Pierre. Parce que voici, si Pierre est capable d'écrire cette lettre-là, c'est parce que la grâce de Dieu est venue sur sa vie. Et peut-être que ce matin, toi, tu te retrouves comme Pierre, dans une situation que tu n'aurais peut-être jamais pensé. Peut-être que tu traverses une saison que tu n'aurais jamais imaginée. Peut-être que tu te trouves dans un divorce que tu n'aurais pas pensé. Peut-être que tu es ici ce matin et tu es au milieu d'une dépendance que tu n'as dit « jamais je serai là-dedans ». Mais aujourd'hui, tu te trouves là-dedans. Peut-être que tu as dit des choses à des gens que tu t'es dit « jamais je dirais ça ». Puis tu as dit ces choses-là. Il y a peut-être des choses que tu as faites que tu dis « jamais j'aurais pensé faire ça ». Puis tu t'es retrouvé à le faire. Moi, j'aimerais dire ce matin, bienvenue dans le club. Des gens imparfaits et pécheurs, comme Pierre. Ou malgré nos meilleures intentions parfois, comme Pierre. Ah, je ne le ferai jamais, malgré nos meilleures intentions. Malgré tous nos efforts, on n'arrivera pas à être parfait. On n'arrivera pas à être digne d'être en présence de Dieu. Nous avions besoin d'un sauveur qui vienne prendre notre place et qui est capable de dire, j'ai vu tes erreurs, j'ai vu tes péchés, j'ai vu tes fautes, j'ai vu les balles que tu as échappées. Mais ma grâce englobe tout ça. Mon amour est sans limite. Comme Pierre va dire, j'ai expérimenté l'amour sans limite de Dieu. Qui est venu m'attraper, qui m'a donné une nouvelle chance. Le message de Pâques, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. C'est ça le message de Pâques. Ça veut dire que même tes pires erreurs ce matin, tu pourrais arriver ici, je pourrais aller ranger par ranger, et tu pourrais me dire les pires erreurs que tu as faites, tes pires péchés, tes pires fautes. Le message de Pâques, c'est qu'il n'y a aucune erreur, aucun péché, aucun manquement qui est final dans le nom de Jésus. Ça veut dire que c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Ça veut dire que si tu réalises ton besoin d'un sauveur, tu dis « Seigneur, je suis tellement sale comme Pierre, je ne mérite pas d'être dans ta présence, je ne mérite pas d'avoir une nouvelle chance. Bienvenue dans le club, c'est ça la grâce de Dieu. Je ne la mérite pas, mais Dieu me l'offre quand même. Mais si je réalise, Seigneur, j'ai besoin de toi, la grâce de Dieu peut être là pour toi ce matin, l'amour de Dieu peut être là pour toi ce matin, tu peux sortir d'ici ce matin avec une deuxième chance dans la vie. La chance que Dieu peut te donner, il y a juste lui qui peut le faire, juste lui qui peut effacer toutes tes fautes et dire maintenant, voici c'est moi qui vais avoir le dernier mot sur ta vie. C'est pas les autres et c'est pas toi-même, c'est moi qui vais avoir le dernier mot. Et ce qui me fascine là-dedans, si vous me donnez encore 2-3 minutes, lorsque l'ange va dire aux femmes, ça m'a impacté plusieurs années en arrière de ça quand j'ai lu ce texte-là, c'est comme s'il est sorti de ma Bible. Lorsque l'ange va dire, dites aux disciples et à Pierre que Jésus l'attend. Quelle pensée extraordinaire que mon nom pourrait peut-être être là aussi. Dites aux disciples et à JP que Jésus l'attend. Et Dieu appelle ton nom ce matin. Dites aux gens et à Maxime que Jésus l'attend. Et à David et à Christophe et à Samuel et à Julie et à Amélie que Jésus l'attend. Ses erreurs ne sont pas finales. Ses péchés ne sont pas finales. Jésus l'attend de l'autre côté et c'est lui qui va avoir le dernier mot sur ta vie. Je vais inviter mon ami Garlindo à venir me rejoindre. Je termine avec ça. Ce matin, je ne sais pas quels sont les mots qui ont été placés sur ta vie. Je ne sais pas quelle parole a été placée sur ta vie. Je ne sais pas quelle parole t'a placée toi-même sur ta vie. Qu'est-ce qui est venu identifier ta vie? Pour Pierre, pour lui, c'était erreur, c'était échec, c'était menteur. Tu as renié Jésus, tu le connaissais. C'était l'échec, on te faisait confiance, t'as abandonné. Je ne sais pas quel mot on a placé sur ta vie. Peut-être que tu es ici ce matin et pour toi, c'est la honte de ce que tu as fait. Peut-être que pour toi, c'est « je me sens malade, voici ce que j'ai fait, c'est comme si je suis malade, peut-être physiquement, spirituellement. » C'est la peur, je ne sais pas ce qui va m'arriver, puis je vis dans l'anxiété, la crainte tout le temps. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Le mot « rejeté », peut-être que tu as été rejeté ici ce matin. Puis tu te dis « mais à l'école, j'étais rejeté, je suis rejeté dans ma famille, je ne sais pas quoi faire, personne veut de moi, j'ai fait des erreurs qui ont fait en sorte que je me retrouve seul aujourd'hui. » Pour d'autres, c'est seul, d'autres, c'est perdu, je ne sais pas où aller. C'est comme si je me retrouve dans la vie où je ne sais pas vers où aller, je ne sais pas vers qui aller. Le message de Pâques, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Et ce matin, il y en a ici, peut-être que tu es rentré avec la honte. Mais si tu prends la décision ce matin de donner ta vie à Jésus, la grâce de Dieu est là, l'amour de Dieu est là. Et la honte peut être changée ce matin en pardon. Ça, c'est des pectoraux, ça. Il y en a ici, peut-être que tu es malade, peut-être dans ton âme, tu es malade. Mais la grâce de Dieu peut s'empoigner de ta vie à partir d'aujourd'hui. Il peut guérir quelque chose. Il peut guérir quelque chose dans ton corps. Il peut guérir quelque chose dans ton âme, dans ton cœur. Et tu peux sortir d'ici avec un autre mot de laquelle tu es rentré parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Et pour d'autres, peut-être que tu étais toujours rejeté. Tu dis, je sais pas, puis j'ai fait des erreurs, puis ça fait que je suis isolé maintenant. Je voudrais te dire une chose. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie parce que cette famille ici, qui est l'Église Nouvelle Vie, va te prouver qu'ici, tu es accepté tel que tu es. Tu n'es pas rejeté. On ne te pointe pas du doigt. Tu n'es pas comme un outsider. Tu fais partie de la famille. Tu es accepté. Et il y en a ici, peut-être, que tu avais peur. Et ce qui peut arriver ce matin, c'est qu'alors que tu as peur de ce qui va arriver, j'ai peur de la mort, j'ai peur de m'abandonner à Dieu. Ce matin, si tu ouvres ton cœur à Dieu, il n'a pas dit son dernier mot sur ta vie et tu peux sortir d'ici avec la paix de Jésus. Et j'ai pas le temps pour les deux derniers. Fait que je les enlève. Dans le nom de Jésus, ces mots-là n'existent plus. Hey, est-ce qu'on peut applaudir Garlindo? Et est-ce qu'on peut applaudir de l'innovation à celui qui n'a pas dit son dernier mot dans nos vies? Que peu importe ce que les gens ont fait, peu importe ce que les gens ont dit, c'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est la grâce de Dieu qui a le dernier mot. Quelqu'un devrait se lever et donner l'innovation au nom au-dessus de tous les noms. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui donne grâce. C'est lui qui remplit d'amour. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Et ce matin, c'est ce qu'on est venu célébrer. Le Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Je ne sais pas de quelle manière tu es rentré ici ce matin, mais tu peux sortir d'ici d'une manière complètement différente. Et c'est non seulement, c'était le témoignage de Pierre, c'est pas juste de la belle théorie pour Pierre, lorsque Pierre va dire, cette résurrection de Jésus qui m'a fait naître de nouveau, comme une nouvelle vie, est une espérance vivante jusqu'en 2024. Que si je marche avec Jésus, si je lui donne ma vie, il peut changer les mots qui ont été placés sur ma vie. Pour Pierre, c'était échec, pour Pierre, c'était menteur, pour Pierre, c'était pas fidèle. Mais Jésus l'a dit non, t'es pas juste un menteur, parce que je t'ai pardonné, je t'ai racheté et je t'appelle encore. Alors Pierre, t'es pas racheté, t'es pas un menteur, t'es un leader dans mon royaume. T'es pas juste quelqu'un qui a fait un échec. Ah, t'as échappé une balle, clairement, mais c'est pas final dans ta vie, parce que je t'appelle pas juste à retourner pécher, je t'appelle à prêcher. Et tu vas te tenir devant le peuple de Dieu. Et tu vas prêcher la grâce de Dieu. Et Pierre a dû le prêcher de toutes ses tripes. Parce que Pierre savait que c'était pas juste de la théorie. Pierre savait que c'était son histoire. Et lorsqu'il prêchait Jésus, c'était pas juste « Ah, c'est de la bonne théorie, vous allez voir, vous allez sortir d'ici inspiré. » Non, vous allez sortir d'ici transformé. Parce que la grâce de Jésus est réelle. Et alors que je devrais être en train de pêcher mes poissons, il m'a rappelé ici à prêcher dans Actes chapitre 2, le début de l'Église. Parce que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et ce matin, pour Pierre, c'était son témoignage. C'était pas juste de la bonne théologie, c'était son histoire. Et ce matin, c'est le témoignage de 35 personnes, 15 personnes à cette première réunion qui vont se faire baptiser. Est-ce qu'on peut leur donner une dose d'encouragement? Est-ce qu'on peut célébrer 15 personnes qui décident de dire « C'est mon témoignage, c'est la grâce de Dieu, Dieu n'avait pas dit son dernier mot » sur ma vie, et pendant qu'ils se préparent à aller se faire baptiser, vous pouvez y aller. Pendant qu'ils se préparent, est-ce qu'on peut leur donner une ovation pour dire, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour la grâce. Merci pour le témoignage. Merci, Seigneur, pour les vies transformées. Merci pour ce que tu as changé dans le nom de Jésus.